Bulle de musique, une émission proposée par Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Gaillard, directeur d'Audisud à Blagnac. Emmanuel Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Avant de dérouler le programme de la troisième édition des rencontres de musiques anciennes en Midi-Pyrénées dont vous venez nous parler, je me permets de vous présenter rapidement à nos auditeurs, puisque vous restez toujours dans l'ombre des artistes. Après des études à Sciences Po et en droit à Paris, et des débuts professionnels au sein de services de ressources humaines de grandes entreprises, vous décidez, vers 30 ans, de mettre vos compétences au service du spectacle vivant. Quelle bonne idée.
Ah bah oui, alors.
Vous devenez administrateur de l'ensemble vocal à Saïvochi, puis à Toulouse, délégué général de l'Orchestre de Chambre Nationale de Toulouse. Après un passage au Ballet National de Marseille aux côtés de Marie-Claude Pietragala, vous revenez en 2000 dans l'agglomération toulousaine comme directeur d'Audisud, la salle de spectacle de la ville de Blagnac, à la demande du maire, M. Bernard Keller. Depuis, Audisud élargit sa programmation, s'ouvre à de nouveaux axes artistiques, des grands spectacles, le nouveau cirque, les cultures urbaines, les musiques anciennes et nouvelles, développe de nouveaux festivals dont Lulu Berlu pour le jeune public qui va avoir lieu
c'est
en
au
juin,
mois de mai d'ailleurs,
mai,
oui. Oui.
Et puis la fréquentation triple en quelques années. Cette année, vous avez fidélisé 20 600 abonnés, ce qui est énorme, dont 4 700 de moins de 26 ans, comptez 153 000 entrées. Audisud est donc l'équipement public de spectacle vivant le plus fréquenté de Midi-Pyrénées et l'une des 10 premières salles de spectacle de France, Paris compris. Le taux de remplissage est de 90%. C'est impressionnant, Emmanuel Gaillard.
Écoutez, c'est le fruit d'un travail d'équipe. C'est le fruit aussi du talent des artistes parce que, évidemment, c'est la créativité, le professionnalisme, l'émotion qui sont véhiculées par les artistes, par les compagnies, qui font que voilà les gens viennent à Audisud de plus en plus et qui font le succès de la salle. Je crois tout simplement la qualité de ce qui est présenté.
Et c'est vous qui les choisissez.
Et oui, mais il y a certaines choses qui se choisissent d'elles-mêmes. Elles sont tellement formidables et parfaites et généreuses que voilà. Donc il faut rendre à Jules ce qui est à César et aux artistes qui sont eux sur scène. Voilà.
Sonner sac-boute, résonner cornet, nous déclarons ouvertes les troisièmes rencontres de musines anciennes en Midi-Pyrénées. À vous, les sac-boutiers. Emmanuel Gaillard, en 2008, vous lancez les rencontres de musiques anciennes en Midi-Pyrénées. Quel en est le concept ?
L'idée est assez simple, c'est qu'en fait cette terre est une terre de musique ancienne par les nombreuses compagnies, artistes, orchestres, formations musicales qui sont de niveau national ou international. On en compte au moins 8, peut-être 9, bon, un ou deux près, en tout cas un très très grand nombre de compagnies. Et c'est même une rareté en France d'avoir autant de bonnes formations musicales spécialisées dans ces musiques anciennes. Alors, qu'est-ce que c'est que les musiques anciennes?
C'est ce que j'allais vous demander.
Eh bien, de quoi parlons-nous? En fait, on parle en gros des musiques d'avant 1750, c'est-à-dire de la musique
la
du Moyen-Âge.
Bach.
Voilà, mort de Bach. C'est-à-dire les musiques du Moyen-Âge, les musiques de la Renaissance, les musiques de l'époque dite baroque. Mais aussi, ça peut déborder un peu parce que les instruments d'époque, c'est-à-dire tout ce savoir-faire qui a été cette redécouverte à la fois des œuvres très anciennes qui dormaient dans des bibliothèques, dans des musées ou ailleurs, ont fait l'objet de recherches, de redécouvertes assez fantastiques de musique. Tout le monde connaît les Quatre Saisons, certes. Il y a certaines œuvres comme ça qui ou le Messie de Handel, un certain tube, j'allais dire, de musique ancienne, qui ont survécu aux âges, mais beaucoup d'œuvres sont à redécouvrir. Et puis même ces œuvres qui n'ont pas cessé d'être connues ont souvent été pas très bien interprété parce qu'on ne connaissait pas bien les instruments de cette époque-là et la manière d'interpréter. Et donc, beaucoup de musiciens ont fait ce travail de redécouverte, de recherche, de restituer les sonorités et le style de toute cette époque, de toutes ces époques lointaines. Et ça nous les rend présentes, en fait, tout ce travail.
Très vivantes. Donc, en gros, ça couvre le Moyen-Âge, la Renaissance et le Baroque.
Et donc, on expose ces différentes formations, la plupart d'entre elles, en tout cas, lors de ce festival annuel qui a lieu en mars ou en avril. Et on essaie de présenter des productions assez exemplaires, soit des productions nouvelles, soit des productions d'une certaine taille que les ensembles eux-mêmes auraient peut-être une difficulté à produire toutes seules par elles-mêmes sur la place de Toulouse ou dans l'agglomération. Donc voilà, c'est un peu le grand festival de musique ancienne. Bon, il y a d'autres séries de musique ancienne, il y a d'autres concerts évidemment un peu tout au long de l'année, mais voilà, ce festival est un coup de projecteur assez intense puisqu'il y a quand même 7 concerts en l'espace d'une quinzaine de jours.
Cette troisième édition a pour thème musique et texte, une liaison heureuse et non pas dangereuse.
Liaison heureuse, voilà. Bah alors c'est vrai que les textes, bon la musique se nourrit d'elle-même d'abord, et de l'inspiration des compositeurs, mais elle se nourrit bien souvent de textes. Alors ça peut être des poésies, ça peut être du théâtre, hein, comme avec Shakespeare, il y a un programme où il est question de textes de Shakespeare. Ça peut être les Quatre Saisons justement de Vivaldi, mais qui ont été inspirés par des sonnets très descriptifs.
Écrits par Vivaldi lui-même.
Mais voilà, qui décrivent un peu l'ambiance de chacune des saisons. Et puis il y a Rabelais, voilà, ben ça c'est tout le monde connaît Rabelais. Et puis là, à la fois l'aspect très philosophique, mais aussi l'aspect très vert ou haut en couleur de la langue rabelaisienne. Et donc ça inspire l'une des productions qui sera présentée.
Donc il y a cette date, vous venez de le dire, du 13 au 26 mars, dans des lieux différents, nous allons les détailler par ordre chronologique. Le premier est Scandicus, qui propose un compositeur que j'avoue ne pas connaître.
Bah, que personne ne connaissait, même pas eux, il y a peut-être 3-4 ans,
alors,
c'est un dénommé Finot. Alors là, ça fait vraiment partie précisément de ce que je disais tout à l'heure, une découverte totale, on retrouve une partition dans une bibliothèque, des musiciens commencent à regarder tout ça et se disent « mais ça, c'est de la magnifique musique, on va la restituer, on va la reconstituer ». Donc là, Scandicus, c'est un groupe de garçons, de chanteurs masculins, donc ils sont 7, 8, 9, 10, mais uniquement entre hommes, sauf qu'il y a des contre-ténors, des ténors, des barytons et des basses, donc ça couvre toute la... comme s'il y avait des voix aiguës, mais qui sont en fait des voix d'hommes. C'est un peu un boys band, comme
toutes les tessitures.
De la Renaissance, voilà. Donc c'est une musique du début du XVIe siècle, parfaitement inconnue et magnifique. Donc c'est a cappella, ce qui veut dire sans accompagnement. C'est une musique très pure, très épurée, très inspirée. Il y a d'ailleurs un autre concert de l'ensemble Organum, un peu sur le même genre de musique, de polyphonie vocale, donc du début de la Renaissance du XVIe siècle.
Alors Scandicus, je me souviens très bien de leur concert de l'année dernière,
qui était
vraiment
merveille.
Ah, oui. Et cette année, on pourra les entendre le mardi 13 mars au Petit Théâtre... samedi 13 mars, au Petit Théâtre Saint-Exupère. Qui est chauffé, précisez-vous,
dans la... Tous les lieux sont chauffés, je le dis, parce qu'en mois de mars, on s'en rend compte, il peut faire à la fois très chaud, mais aussi parfois très 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 froid. Donc tous les concerts du festival, beaucoup ont lieu dans des églises, mais elles sont toutes chauffées. Voilà.
Et il faut se dépêcher, parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de place pour ce
spectacle,
concert.
Ce spectacle, voilà, est quasiment plein, mais voilà, encore une fois, sur le même genre de musique et un autre registre, l'ensemble Organum, qui une dizaine de jours après, là, il y a de la place.
Alors, on continue dans la chronologie. Le deuxième ensemble, ce sont les Éléments, dirigés par Joël Subiette, que nous connaissons tous à Toulouse, qui ont été victorieux comme ensemble de l'année en 2006, je crois, pour les victoires.
Victorieux de la musique. Ouais.
Nous allons écouter un extrait, puis nous reviendrons sur leur programme. Ne crains plus la chaleur du soleil, ni les rages du vent furieux, tu as fini ta tâche en ce monde. Voilà les éléments chantés ce sonnet de Shakespeare sur une musique non pas ancienne, contemporaine, et c'est là où tout ce jeu, la passerelle entre ancien et moderne.
Tout à fait. Il est très intéressant ce programme, vraiment. D'abord, bon, les éléments, vous avez entendu la qualité musicale, vocale, incroyable, quoi. C'est vraiment l'un des meilleurs chœurs français et européens, tout simplement.
Voix.
On a la chance de les avoir ici à Toulouse et à Blagnac. Les éléments sont en résidence permanente à Audi-Sud depuis 2001. C'est toujours une chance, c'est miraculeux. C'est le miracle de la voix, là aussi, a cappella, dans toute sa pureté, dans toute sa splendeur.
Et le talent de Joël Subiette de savoir aussi s'entourer de chanteurs.
Faire chanter et savoir. Voilà. Mais c'est une expérience à vivre en concert, parce qu'il y a un aspect de contact physique vraiment incroyable entre ces voix.
Une concentration.
Une vingtaine de chanteurs, donc là, ils seront 24. Et ce sera à Saint-Pierre-des-Cuisines, là, pour le coup.
Alors, mardi 16 mars,
donc très belle acoustique d'ailleurs dans cette ancienne église qui est dans le centre de Toulouse. Et le programme, justement, va faire des allers-retours autour de textes de Shakespeare, de sonnets de Shakespeare ou de textes qui ont donné lieu à des chansons et qui ont inspiré des compositeurs de l'époque de Shakespeare, donc comme Dowland ou Morley, et puis des compositeurs Purcell. Et puis dans ce programme, il y aura en effet du Van Williams qu'on vient d'entendre, et puis du Britten, qui est évidemment le grand compositeur anglais du XXe siècle, et puis des choses encore plus récentes, comme une œuvre de Patrick Burgan.
Qui sera notre prochain invité.
Voilà, et qui a lui aussi a été inspiré par ces très très beaux textes. Voilà, donc c'est vraiment de la musique à découvrir, absolument magnifique, un concert très très varié.
Alors pour un avant-goût, je signale que ce concert a été donné à l'Opéra Comique à Paris, enregistré par France Musique, et que l'on peut l'écouter sur le site internet de France Musique dans les concerts du soir.
Absolument, pour donner le goût de venir le 16 mars, l'écouter en vrai. Voilà.
Je vous propose un autre extrait de ce spectacle que les éléments donneront à Audi-Sud le mardi 16 mars et qui a aussi fait l'objet d'un disque que l'on peut trouver chez les meilleurs disquaires, bien sûr, et qui s'intitule, qui est toujours de Vaughan Williams, et qui s'intitule « It was a lover and his last ». Au printemps, au joli temps nuptial où les oiseaux chantent, et ding ding ding, tendres amants aiment le printemps. Voilà, c'était un petit sonnet de Shakespeare, tout à fait de saison, que nous ont offert les éléments. Je signale aussi que nous pourrons retrouver les éléments en dehors du Festival des rencontres de musiques anciennes à Audi-Sud, pour le coup, et non plus à Saint-Pierre-des-Cuisines, le 18 mai pour une création, mais nous reviendrons dessus avec Joël Subiette. Emmanuel Gaillard, dites-nous s'il vous plaît la suite du programme.
Alors la suite du programme, c'est le 17 mars, un concert de musique byzantine. C'est vrai que le chant byzantin, c'est l'un des trésors de la musique, mais assez peu connue. C'est une musique qui peut paraître pour certains aspects un peu austère. Là aussi des voix d'hommes, un chantre et puis des accompagnateurs qui font des hissones, ce qu'on appelle les paraphonies. C'est une très très belle musique. Ce sera le 17 mars, malheureusement, j'en suis désolé, le concert est déjà complet.
Le soleil de la Méditerranée n'est pas...
Mais voilà, il y aura quand même une répétition ouverte au public scolaire de la veille. Je mentionne également, et c'est malheureusement aussi, enfin, ou heureusement plutôt, complet, les quatre saisons interprétées par l'ensemble baroque de Toulouse le 20 mars. Mais là, la particularité, c'est qu'il y aura un environnement électroacoustique signé EOL, qui mettra un peu ces quatre saisons que tout le monde connaît dans un contexte un petit peu particulier. Et puis, il y aura un bal, parce qu'un festival, c'est une fête. Et donc, il y aura un bal vénitien de carnaval juste après le concert, et ouvert à tous à 22h, donc le 20 mars, dans Audisud, dans le forum, dans le hall d'entrée d'Audisud.
Nous arrivons à une journée particulière, le dimanche 21 mars, et il y aura aussi un bal, nous allons y revenir, pour fêter le printemps. Vous avez invité les Sacboutiers et un ensemble vocal extraordinaire, l'ensemble Clément Jeannequin de Dominique Wyss.
Alors ça, c'est évidemment la Rolls-Royce, les deux Rolls-Royce de la musique de la Renaissance, on peut le dire, et qui s'allient, qui fonctionnent ensemble. Les Sacboutiers, là aussi.
Instrumental.
Que beaucoup connaissent, c'est évidemment les redécouvreurs des cuivres anciens, et puis un ensemble exceptionnel à tous égards, de niveau international, très largement reconnu depuis de très nombreuses années, et qui sont avec leur vieux complice, l'ensemble Clément Jeannequin, qui est le meilleur ensemble, lui aussi dans son domaine, c'est-à-dire la musique vocale de la Renaissance, et dans un répertoire hautement réjouissant. Rabelais, hein, la langue de Rabelais et la musique qui est dans l'esprit rabelaisien, qui a été composée par des compositeurs de la Renaissance française.
Oui, avec des poèmes de Dubélé, mais également et surtout le Rabelais et son Gargantua.
Voilà, parce qu'il y a en fait un récitant, Pierre Margot, qui va dire des textes de Rabelais qui vont émailler et rythmer toute la soirée. Voilà, avec un plateau artistique absolument exceptionnel et on ira de découverte en découverte. À la fois philosophique, parce qu'on le sait bien, Rabelais, c'est des histoires assez philosophiques, parfois un peu embrouillées, et puis surtout très, très hautes en couleur, très drôles, parfois très irrévérencieuses, à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Mais en tout cas, voilà, ce sera un moment, voilà, de...
Le titre est édifiant puisque c'est fait ce que voudra, qui était la devise de l'abbaye de Thélème. Alors, je vous propose d'ouvrir grand vos oreilles parce que nous allons passer un extrait qui s'appelle La chasse de Clément Jeannequin, où les chanteurs imitent les chiens. Alors, je vous dis les paroles, elles sont hautement intellectuelles. Plif, plof, gnof, gnof, tronc, tronc. Soutenu par le cornet à bouquin de Jean-Pierre Canillac, ce qui est une nouveauté, car d'habitude, il chante a cappella. Et on a retrouvé une version de Clément Jeannequin lui-même, qui ajoute le cornet à bouquin.
Yeah.
Jacques Boutier de Toulouse et l'ensemble Clément Jeannequin. C'est une incroyable prouesse d'imaginer. Il faut les voir en scène. Hein.
C'est visuel.
C'est visuel.
Ça s'entend quand même. Hein.
D'ailleurs, ce disque, ils viennent de l'enregistrer. Ouais. Il sortira à l'automne. Ouais. Donc, autour de ce concert qui a lieu dans la salle même d'Audi-Sud Blagnac, le dimanche 21 à 18h, il y aura d'autres choses, conférences.
Alors avant, il y aura une conférence de Dominique Viss et Jean-Pierre Cagnac sur justement le thème, comment ils ont travaillé sur cette musique ensemble, puisque c'était vraiment une innovation de mettre aussi des instruments sur ce répertoire de musique vocale. Après, il y aura une petite initiation à la danse de la Renaissance à 17h, à 18h donc le concert. Et puis donc, pourquoi cette initiation? Parce qu'à 19h30, juste après, il y aura un bal Renaissance auquel tout le monde est convié dans le forum, dans le hall d'entrée dans 18, et un repas rablaisien au bistrot des artistes. Par contre, là, il faut réserver. Voilà. Mais donc, il y aura des recettes qui sont décrites par Rabelais dans ses différents ouvrages. Donc, ça risque d'être un moment très festif, très réjouissant.
C'est le printemps.
Très en couleur, et c'est le printemps. Et j'avais même pas réalisé qu'en effet, on tombait le printemps. Ce sera pile poil. Hein. Voilà.
Audi-Sud offre gentiment deux places aux auditeurs d'Altitude FM pour ce concert des Sacs Boutier. Pour gagner, il suffit de téléphoner et de participer au jeu d'Altitude FM au 05 61 71 90 90. Emmanuel Gaillard, c'est un beau cadeau. Merci pour nos auditeurs.
Mais c'est surtout un beau cadeau que les artistes nous rendent pour nous faire découvrir Rabelais, parce qu'évidemment, on peut lire les ouvrages Rabelais avec beaucoup de plaisir, mais qui connaît, qui se souvient, qui a lu Rabelais, sans doute pas depuis de nombreuses années.
Et en vieux François.
Mais c'est vrai que rendu comme ça, dans ce contexte de concert avec récitant, ça prend une chaleur, une vivacité, une couleur absolument épatante. Donc, un rendez-vous très réjouissant.
Lundi 22, changement complet de climat, d'ambiance. Après la musique profane des Sacs Boutier et de l'ensemble Clément Jeannequin, nous allons retrouver la musique sacrée d'Organum.
Autre rendez-vous très important.
À Blagnac, mais pas au
Blagnac, dans l'église de Blagnac, récemment restaurée. Oui, madame, elle est très belle cette église. Elle est vraiment très intime et il n'y a que 300 places. Et l'acoustique est impeccable et un très très beau cadre pour là aussi... de la musique sacrée, cette fois-ci, du début du XVIe siècle. Et là aussi, l'ensemble Organum, faut-il le préciser, l'un des meilleurs ensembles spécialisés dans la musique du Moyen-Âge au monde, Marcel Pérez.
Qui est en résidence à Moissac.
Qui est à Moissac et qui fait un travail fantastique de redécouverte d'un répertoire énorme.
Il est très réputé.
Voilà, c'est un ensemble qui a enregistré plus de 50 disques quand même, c'est pas rien, et qui est l'un des plus fameux ensembles de musique du Moyen-Âge. Et donc là, une nouvelle redécouverte, le Requiem de Divitis. Thank you.
Emmanuel Gaillard, nous allons souhaiter un immense succès à ces rencontres de musiques anciennes en Midi-Pyrénées, en buvant à leur santé et à la nôtre.
Ah bah oui.
Avec ce dernier air des Sacs Boutiers et de l'ensemble Clément Jeannequin, au haut je bois, prions à Dieu le roi des rois, gardez ce gentil vin François pour mieux nous éclaircir les voies. Gaillard, merci à vous pour cette belle programmation que l'on peut retrouver dans son intégralité sur le site www.audisud.com. Je rappelle le téléphone d'Audisud 05 61 71 75 15. Et puis nous disons juste un mot du dernier concert puisqu'il est déjà complet avec Yasuko Bouva.
Voilà, juste après l'ensemble Organum là, qui se produira le 22 mars. On aura deux concerts, Yasuko Bouva au piano forte. Là aussi, c'est une découverte. Le piano forte, c'est donc en fait, c'est pas tant l'ancêtre du piano que l'instrument sur lequel jouaient Mozart, Beethoven, Haydn et tous les compositeurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'était sur un piano forte, c'est-à-dire un instrument qui est quand même sensiblement différent du piano moderne que
et
tout le monde connaît.
Et aussi du clavecin.
Et avec des sonorités très veloutées, très chaleureuses, très particulières. Et c'est vraiment une découverte là aussi en concert extraordinaire.
Et la délicatesse de Yasuko Yamabuvar, voilà, que nous connaissons. Donc ouais, le Festival des rencontres de musiques anciennes en Midi-Pyrénées se terminera sur du Mozart. Et nous allons retrouver tout de suite la flûte enchantée dans la publicité. Emmanuel Gaillard, au revoir et merci.
Eh ben, merci.
Les médias fous de musique. Cher Hubert, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui Hubert, quelle est la surprise que vous nous proposez ?
Une surprise, mais oui, voyons une surprise. Eh bien, ce sera une publicité autour d'un opéra de Mozart, ce cher Mozart, la flûte enchantée, dite Zauberflöte. Et donc, c'est l'air de la Reine de la Nuit, le deuxième air. Elle chante deux airs, la Reine de la Nuit, un air où il y a des aigus absolument stratosphériques. Pour une Reine de la Nuit, c'est normal.
C'est normal, nous sommes dans les éléments déchaînés. La flûte enchantée, donc le dernier opéra que Mozart a composé. Il est né en 1756 et mort en 1791, à 35 ans peine.
Aimé des dieux, on dit.
C'est vrai qu'il a composé très très jeune et qu'il a eu tout de même une longue carrière. Mais ce n'était pas dû à sa longévité, mais bien à son talent. Et La flûte enchantée est un conte musical qui est chanté en allemand et qui a été créé en 1791, le 30 septembre à Vienne, juste deux mois avant la mort de Mozart, qui est mort le 4 septembre 1791. Dès le début, cet opéra est un immense succès. Il a été donné plus de 100 fois en un an, ce qui est rarissime parce que... Ouais. Beaucoup d'opéras ne sont pas appréciés dès leur...
En fait, c'était un théâtre, pas l'opéra habituel, c'était un théâtre dans la banlieue, et donc avec un public populaire. Mais vous imaginez la chance qu'ils ont eu d'avoir cette composition dans ce théâtre. Ça a fait vraiment
surtout
un tabac.
Surtout que le thème, en apparence, peut être considéré comme simple, mais qu'il y a plein de symboles et de sous-entendus, pas toujours facile d'accès quand on ne connaît pas toute l'histoire de Mozart et de la franc-maçonnerie. Et cette opéra se déroule donc dans un pays imaginaire qu'on peut imaginer être l'Égypte ancienne. Et eh bien, comme vous l'avez dit, on peut entendre le très célèbre air de la nuit. Alors, vous avez choisi ça parce qu'il y a une publicité.
Ah ben, bien sûr, notre parti pris est de chercher des publicités où il y a des airs d'opéra. Et donc, cette publicité, je crois que vous l'avez retrouvée, Catherine. Vous êtes allée chercher sur Internet et vous avez trouvé
et
cette
nous allons donc écouter
dont je vous avais parlé.
Le plat du jour.
Riz de Bresse rôti. Riz meunière. Riz thermidor, côtelette de riz à la normande.
Je vous décris l'image, puisque nous sommes à la radio, nous avons écouté le son extraordinaire, très emphatique. C'est un maître d'hôtel, extrêmement élégant, dans un très très grand restaurant. On voit ses manchettes, avec des boutons de manchettes magnifiques. Il arrive avec des plats d'argent, avec des cloches en argent, et il dévoile chacun de ses plats, le poulet de Bresse rôti, le homard thermidor, les côtelettes à la normande. Et la dernière fois qu'il soulève la cloche, eh bien, on dévoile de quel produit il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, en fait, c'est extraordinaire parce que ça relance sur la folie de l'air lui-même. C'est-à-dire que nous voyons des plats entièrement faits en riz, c'est-à-dire du riz moulé en forme de poulet, de côtelette ou de homard.
Mais très bien présenté.
Ah, mais alors on y croit.
Du riz blanc, nacré.
Du riz absolument étincelant, voilà, une blancheur étincelante. Et donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une compréhension. Peut-être que les publicitaires étaient très fins musiciens. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ça va bien avec l'air. Il y a une forme de folie dans cet air. Peut-être remettre en place cet air avec ses contrefaces. C'est très aigu, donc, comme note, ce qu'on entend. Et donc, la Reine de la Nuit, c'est, dans l'histoire de la Flûte Enchantée, la mère de Pamina, l'héroïne, à qui les deux ont été séparés. La fille a été arrachée à la mère et cette reine de la nuit essaie de la récupérer. Et pour y arriver, dans ce deuxième air, c'est le deuxième air de la reine de la nuit, va demander à sa fille de tuer son ravisseur pour pouvoir se libérer de lui. Mais ce ravisseur, c'est Zarathustra, c'est
le grand prêtre, d'Isis et Osiris,
voilà, très sage. Et donc, Pamina ne peut pas parce qu'elle trouve cet homme très bon et à son endroit, en tout cas, elle ne le craint pas. Et surtout, il y a une espèce de tabou qui est levé, c'est le tabou du parricide. On demande donc à une jeune fille de tuer un substitut paternel. Et donc, à ce moment-là, l'idée géniale de Mozart, c'est de faire déraper la reine de la nuit dans sa folie, qui est de demander donc une chose absolument innommable à une fille de tuer un substitut paternel. Et donc, elle dit les paroles que vous pouvez peut-être nous traduire, Catherine.
Alors, la reine de la nuit arrive dans une espèce d'éclair, de tonnerre. Elle tend un poignard à sa fille, Pamina, et elle dit « Une colère terrible consume mon cœur. Le désespoir et la mort m'enflamment. Si Sarastro ne meurt pas de ta main, tu n'es plus ma fille, non plus jamais. »
Et donc c'est au moment où elle dit non, plus jamais, ni marmire, qu'il y a les fameuses vocalises délirantes, c'est-à-dire qu'elle part dans quelque chose de fou. Écoutons.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
incroyable soprano avez-vous trouvé cette fois-ci ?
Ah, alors je n'ai pas pu résister à vous faire découvrir Lucia Pop, qui est donc une jeune cantatrice à l'époque, c'est en 1964, qui fait ses débuts au disque. Vous imaginez la carrière qu'elle a fait après avec une voix pareille. Parce que j'avais prévu, pour ne rien vous cacher, de choisir une interprétation très dramatique que vous avez, dans l'émission précédente, écoutée en fait avec mon ami Marc Laborde, qui avait choisi Edda Moser, parce que c'est la version la plus dramatique au disque qui existe.
C'est une reine de la nuit plus mûre,
plus, et surtout plus violente, expressivement et très dramatique. Là, nous avons, je crois, une perfection vocale et une beauté vocale absolument inégalée, parce que la voix est très très belle, même dans les suraigus qui ne sont jamais criés. Et la colère n'en est que plus extraordinaire. On est dans la même idée que cette publicité, quelque chose de très beau et de très fou. Pourquoi fou ? Parce que quand même, ce personnage, j'essaie de l'expliquer dans La Folie à l'Opéra, est un personnage extrêmement paranoïaque, qui a une réalité persécutive à côté d'elle, contre laquelle elle se bat en prenant les mauvaises décisions. Et la haine est une mauvaise conseillère, on le sait bien.
C'est bien connu. Et vous pensez que dans la publicité, c'est la même voix ?
Je pense, pour peu qu'on puisse reconnaître une publicité sur un son d'ordinateur et d'une publicité, à mon sens, c'est la même voix. Parce que justement, cette beauté de la voix est assez rare dans ces terres. C'est souvent des sopranos très légers. Alors c'est l'un des contresens qu'on fait souvent de trouver ces terres très jolies et très mignons.
En fait, c'est un air très terrible. Il est plutôt violent. Et d'ailleurs, elle dit, entendez, Dieu de vengeance, entendez le serment d'une mère. C'est terrible qu'une mère parle de vengeance et veuille se servir de sa fille comme instrument de sa vengeance.
De faire de sa fille une meurtrière.
Une meurtrière, c'est quand même
pas banal, on va dire. Hein. C'est des choses qui n'arrivent pas dans la vraie vie, voyons.
Mais non, jamais.
Jamais il y a des mères abusives, jamais.
Écoutez, peut-être qu'on va réentendre cette air, parce que je crois qu'on ne s'en lasse pas.
C'est un
des summums de l'opéra de cette époque-là et de toutes les époques.
Et qui rend justice aux vocalises. Quoi. Les vocalises peuvent être ici quelque chose de violent, d'agressif.
Et pas gratuite.
Et pas gratuite du tout, parce que ça évacue l'émotion. Il ne peut pas y avoir d'émotion dans ces moments de vocalise, autre que d'être ébahi. Mais les dernières paroles... Écoutez, Dieu de vengeance, sont faits dans un ton beaucoup plus emphatique. Vous entendrez la différence. En fait, l'air est très bien construit, avec une montée en puissance quand elle arrive comme une furie, avec des tonnerres et des éclairs. La partie vocalisée qui est pour faire oublier un petit peu, pour hypnotiser, de dire « je veux que tu tues, mais tu vois, c'est comme ça que tu seras ma fille, sinon tu ne le seras pas ». Et à la fin, la vengeance qui explose. Donc, vous pouvez peut-être le réécouter en entendant tout ça.
On va le réécouter, donc, cet air de la Reine de la Nuit de Mozart, issu de la Flûte enchantée.
Peace.
quelle musicalité, Hubert, en dehors de la voix magnifique de Lucia Pop, quels étaient les autres interprètes de ce disque? Et
donc, c'est un enregistrement intégral fait par Otto Klemperer, un très vieux chef allemand à l'époque. C'est son dernier enregistrement, un très grand chef allemand, qui a enregistré cette version intégrale de La Flûte Enchantée, en choisissant, et je crois même en l'imposant, cette toute jeune cantatrice qui avait pas 30 ans, pour chanter La Reine de la Nuit. Et ensuite, sa carrière a été fantastique. Il y a une distribution extraordinaire dans cet enregistrement de La Flûte Enchantée, qui évidemment maintenant se trouve facilement chez EMI et réédité.
Alors, j'ai lu que Mozart était le compositeur qui était le plus utilisé pour les publicités. Donc, merci à vous d'avoir choisi
un exemple parmi d'autres.
Cet exemple parmi d'autres. Et puis, nous nous disons à très bientôt, Hubert.
À très bientôt, Catherine.
Folle de musique vous dit au revoir et à jeudi prochain sur Altitude FM.